Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
I understand that time is running out. 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 Running out as hastily as niggas run from the man. Time is running out on our natural habits. Time is running out on lifeless serpents reigning over a living kingdom. Time is running out of talks, marches, tunes, chants, and all kinds of prayers. Time is running out of time. I heard someone say things were changing.
Il y a 50 ans, un groupe de jeunes noirs effrontés, les Last Poets, entraient dans la bataille de la communauté afro-américaine contre le racisme institutionnalisé. Leur premier album, perçu aujourd'hui comme la source de la culture rap, est devenu le marqueur d'une époque durant laquelle les appels au calme et à la non-violence ne suffisaient plus. Le mouvement Black Power trouvait sa raison d'être et agitait les consciences. C'est cette histoire militante que nous allons évoquer aujourd'hui avec Sophie Rosemont. Merci d'être avec nous.
Merci à vous, Joe.
Covid oblige, nous réalisons cette émission à distance, mais cela ne va pas nous empêcher de tourner les pages de votre livre « Black Power », paru chez GM Éditions. Pourquoi avez-vous écrit cet ouvrage de 192 pages ?
Pourquoi je l'écris ? Parce qu'il me semblait qu'il était intéressant de revenir sur le récit de cette pop culture noire américaine que l'on connaît dans les grandes lignes en France, mais dont on ne connaît pas non plus tous les artistes. Que c'est une histoire passionnante qui mêle à la fois la musique, le cinéma, la littérature, les arts plastiques et la politique, qui est très très liée à des vies souvent écorchées, à des combats. Il y avait tellement de choses à dire que ce livre, en tout cas, avait de quoi être nourri. Et je crois que le point de départ du livre, c'est un article que j'ai écrit pour Afrique Magazine il y a 3 ans, sur le Black Power dans la culture mainstream. C'est-à-dire que si il y a toujours eu du Black Empowerment dans la musique et les arts pratiqués et performés par les artistes noirs américains depuis maintenant très longtemps, ce n'est qu'assez récemment que ce discours est vraiment passé du côté du mainstream. Certes, il y avait des artistes comme Aretha Franklin ou Sam Cooke qui avaient supporté un discours auprès d'un large public, mais là, il est vrai que quand on est face à des pop stars comme Beyoncé, ou Jay-Z, ou Janelle Monae, ou Kanye West, effectivement, la portée est assez large. Et il y avait aussi beaucoup de films qui portaient sur ce sujet-là, sur l'identité et les interrogations de la communauté noire américaine, qui revenaient non seulement sur l'esclavage, ça a été beaucoup fait dans les années 90, mais surtout sur la ségrégation et sur les violences policières. Et cet âge d'or du cinéma aussi m'a inspiré, cet âge d'or qui est arrivé suite à l'élection de Barack Obama. Donc, tout ceci confondu a fait que j'ai eu envie d'écrire ce livre, sans oublier sans doute ce qui compte le plus, c'est mes rencontres. Les rencontres avec des artistes comme Mavis Staples, Benjamin Booker, Nile Rodgers, ces échanges extrêmement constructifs, enrichissants, qui ont fini de me convaincre d'écrire ce livre qui ouvre plein de petites portes sur des univers aussi différents que ceux des Last Poets, de Benjamin Booker, de Curtis Harding, de Keri James Marshall, de Basquiat, de Maya Angelou, de James Baldwin, voilà, de tous ces artistes aux univers très différents, mais qui, quelque part, ont tous œuvré pour une seule et même cause.
Donc, ce n'est pas le mandat de Donald Trump qui vous a inspiré cette thématique combattante ?
Je ne crois pas que Donald Trump m'inspire en quoi que ce soit. Mais en revanche, quand j'ai avancé dans le livre, au fil des pages, au fil des recherches, il m'a paru évident que les violences policières connaissaient un réel retour en force depuis les années 2000. C'est-à-dire que ça n'a pas attendu Donald Trump hein, pour que les policiers se permettent de faire n'importe quoi et qu'il y ait autant de morts sur le sol américain. C'est comme si les suprémacistes n'avaient pas supporté l'arrivée de Barack Obama au pouvoir. En tout cas, le mal est là. Hein. De toute façon, c'est un mal qui ronge l'Amérique depuis des siècles, qui vit un retour en force depuis quelques années. Mais il est vrai que ce que Donald Trump a lui instauré, c'est une forme d'impunité. Ce que Barack Obama a dénoncé ouvertement, Donald Trump ne l'a jamais fait. Donc c'est vrai que la mort de George Floyd n'a pas semblé l'émouvoir outre mesure. Mais bon, lors de la mort de George Floyd, moi j'avais quasiment terminé le livre. D'ailleurs, je l'avais même à l'origine finalisé et je l'ai repris à ce moment-là pour aller un petit peu plus loin dans l'année 2020.
Vous ne parlez pas que de musique hein, dans votre livre, mais de plusieurs disciplines artistiques qui ont accompagné la lutte du peuple noir aux États-Unis. Quelle forme d'expression vous paraît la plus efficace pour provoquer une réaction populaire, pour toucher le cœur des gens ?
C'est vrai que la musique est l'un des plus beaux médias en termes d'activisme. Après, une peinture peut être très forte. Un film aussi, un film, ça allie l'image et le son. Finalement, tout dépend vraiment de l'artiste. Mais il est vrai que les protest songs ont cette aura, cette efficacité que peut-être assez peu de pièces d'art peuvent égaler. Donc je pense que la musique est un vecteur très fort en termes d'activisme. Non seulement elle adoucit les mœurs, mais elle contribue aussi à encourager les révolutions.
Dans cette émission, nous parlons justement principalement de musique et l'épopée des musiques noires rejoint parfaitement l'enjeu de votre livre qui suit une chronologie bien précise. À quand remonte pour vous les premières manifestations d'un Black Power balbutiant, dirons-nous?
Dans les champs de Canton. Très clairement, je pense qu'il y a deux ou trois siècles, les esclaves noirs chantaient, bricolaient des instruments avec des bouts de ficelle et s'encourager, se faisait passer des messages grâce à la musique. Donc là, c'est tout ce qui concerne la confidentialité, le secret, la clandestinité, parce qu'ils étaient pour la plupart interdits d'exprimer leur vocation artistique. Ensuite, je pense que c'est vraiment du côté du blues, fin du 19e et début du 20e siècle, où il y a eu des très grandes figures qui n'ont jamais hésité à s'exprimer haut et fort contre le patriarcat blanc. Je pense à des icônes féminines comme Bessie Smith. Il y a eu tout un chemin avant d'arriver là où débute mon livre, au milieu des années 50, au moment où la pop culture explose. La pop culture est arrivée après-guerre, dans une période qui est assez spécifique, où la consommation change, où les modes d'écoute de musique changent, où il y a une espèce d'euphorie, et là où il y a aussi beaucoup de combats parallèlement. Je crois que du moment où les esclaves ont posé un pied sur le sol américain, après un long voyage de déportation du continent africain, ils n'ont cessé d'essayer de trouver une manière d'exprimer, de se souvenir de leur culture. Car le blues, la soul, le jazz, le hip-hop remontent tous à une seule et même racine. C'est les cultures africaines, les rythmiques notamment, et certaines mélodies d'Afrique de l'Ouest.
Diriez-vous que Billie Holiday était la première chanteuse rebelle de l'histoire afro-américaine, notamment lorsqu'elle a interprété Strange Fruit?
Alors Billie Holiday, c'est la première chanteuse nord-américaine à s'être appropriée et avoir imposé aussi fort une chanson protestataire qui est devenue un emblème immuable, qui est Strange Fruit, et qui est extrêmement accusatrice, qu'elle chante avec sa voix à la fois distante, un peu ironique, très dure et très suave à la fois, parle très clairement du lynchage et d'une manière très imagée. C'était absolument fou d'entendre ça dans les années 30. Mais avant elle, il y a eu quand même pas mal de chanteuses noires comme Bessie Smith qui a chassé le Ku Klux Klan même une fois lors de ses performances. En tout cas, Billie Holiday, qui était aussi adulée par un public blanc, a réussi à faire passer des messages, mais elle a payé cher. À la PFR, il y a eu récemment un documentaire assez excellent qui s'appelle Billie sur son parcours et qui montre bien à quel point elle a été persécutée par la FBI, par les hommes aussi. Il y a ça aussi dans ces figures féminines, le fait qu'elles aient été non seulement opprimées par les autorités blanches, l'homme blanc, mais aussi par l'homme noir. ça fait partie des sources de l'afroféminisme, hein, de ce que disait Angela Davis, hein. Tant que l'homme noir ne pourra pas libérer la femme noire, ne l'autorisera pas plutôt à être libre, il ne pourra pas l'être complètement lui-même. C'est extrêmement important, et des personnalités comme Nina Simone, bien sûr, Aretha Franklin, Minnie Riperton, Maya Angelou, Toni Morrison, se sont inscrites très fortes dans cette lignée d'afroféminisme, qu'elles le nomment ou pas.
Vous faites entrer Mahalia Jackson, Odetta et Ella Fitzgerald dans le mouvement de contestation qui mènera au sursaut citoyen du pouvoir noir. Ces dames prônaient la non-violence et l'entente entre blancs et noirs et pas la confrontation.
Pas du tout, mais après c'est toujours la grande question soulevée à maintes reprises, à la fois dans la musique et puis surtout dans le cinéma, notamment celui de Spike Lee, dans Do the Right Thing, c'est-à-dire il y a le côté Malcolm X et le côté Martin Luther King, même s'ils se sont rejoints à divers endroits. Mahalia Jackson était quand même extrêmement investie auprès de la communauté des Noirs américaines. C'était une fervente adepte de Martin Luther King, qui était un grand fan d'elle aussi. Certes, elle a réuni un public blanc autour d'elle, mais elle a été une figure de proue, une lumière d'espoir extraordinaire. Elle qui venait d'une famille très nombreuse, très pauvre, qui avait vu le pire et qui était devenue une star du gospel. Odetta était aussi pacifiste, hein, comme Mahalia Jackson, comme l'étaient John Baez et Bob Dylan, qu'elle a influencé. C'est elle, finalement, la pionnière, avant John Baez, hein, du folk contestataire. Mais je pense que le discours pacifiste n'est pas forcément en désaccord avec les propos et les actions, notamment des Black Panthers, qui, au début, œuvraient surtout pour le bien-être de la communauté. Ils servaient des petits-déj aux enfants, ils aidaient les personnes à traverser, ils inculquaient l'histoire de leurs origines africaines aux jeunes. Ils voulaient effectivement les politiser, mais le combat a commencé lorsqu'il y a eu un ras-le-bol de se faire agresser, martyriser, torturer, tuer en place publique en toute impunité. Et puis Malcolm X a payé aussi très cher son investissement. Je ne sais pas vraiment s'il y a une réelle rupture. Il y a eu des ruptures dans beaucoup, beaucoup de parties. Mais je crois vraiment qu'on peut être comme Odetta, comme Mahalia Jackson ou comme Ella Fitzgerald, œuvrer pour un rapprochement des peuples, sans oublier la fierté de sa couleur de peau, sans oublier de revendiquer ce que l'on est. En fait, on a le droit d'être noir et de vouloir chanter pour tout le monde. En tout cas, certains ont fait le choix d'être extrêmement populaires. Et on ne peut pas leur reprocher un désinvestissement ou un manque d'engagement pour ceux. Ça a été le cas d'ailleurs pour James Brown. Il y en a qui ont grogné. Ah, James Brown, il n'était pas assez investi, alors que James Brown était loin d'être Benny Oui et qu'il a quand même signé cet incroyable hymne « I am black and I am proud », ce qui veut tout dire.
Donc pour vous, Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson ou Odetta sont des combattantes? Ce ne sont pas des victimes.
Ah, ce ne sont absolument pas des victimes. Déjà, pour être une femme sur la scène, c'est un combat de tous les jours. Pour être une femme noire sur la scène, d'autant plus, c'est quand en plus on est pauvre, ce qui était le cas d'une grande partie de la communauté noire américaine jusqu'à au moins les années 70. Oui, effectivement, c'est un combat de tous les jours. Et on peut très bien avoir un discours pacifique et se battre tous les jours très très fort pour survivre, tout simplement.
Écoutons Odetta maintenant, si vous le voulez bien, chanter Oh Freedom sur son premier album solo en 1957.
Oh Freedom, oh Freedom, oh Freedom over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave. Go home to my Lord and be free. No more moaning, no more moaning, no more moaning over me.
L'album s'appelle Odetta Sings Ballads and Blues. Il s'agit d'un témoignage vibrant de l'engagement d'Odetta qui deviendra une figure du mouvement des droits civiques, comme vous le précisez, page 33 de votre livre, Sophie Rosemont. I'm Black and I'm Proud, de James Brown, que vous citiez tout à l'heure, et Soul Man, de Sam & Dave, par exemple, s'adresse-t-il au même public ?
Pas tout à fait, peut-être. C'est vrai que le public de James Brown est plus diversifié. Celui de Sam & Dave, on est vraiment sur un public majoritairement africain-américain. Et le titre même de la chanson, Soul Man, fait référence aux inscriptions sur les devantures des magasins où il y avait écrit Soul Man, Soul Brother. C'est-à-dire, ce magasin appartient à un noir, ne l'attaque pas. Et c'est en se basant sur cette inscription qu'est née, entre autres, cette chanson. Donc oui, il y a, on va dire, une double lecture dans la chanson Soul Man, qui semble a priori complètement innocente. En revanche, on est carrément dans du premier degré sur l'hymne de James Brown.
Quel écho avait le Black Power sur le continent africain ?
Il y a eu des allers-retours. Les artistes africains ont reçu et entendu avec beaucoup d'attention ce qui se faisait à New York, à Los Angeles, à Chicago, notamment le jazz, tandis que le jazz est allé fureter sur le continent africain pour trouver de l'inspiration. Et puis il y a eu évidemment l'afrobeat, qui est un parfait exemple d'aller-retour entre le sol américain et le Nigeria. En tout cas, oui, il y a eu un écho assez conséquent sur le continent africain, car tout venait de là aussi.
Est-ce qu'on peut dire que les assassinats de John Fitzgerald Kennedy en 63, de Malcolm X en 65, de Martin Luther King et de Bobby Kennedy en 1968 ont accéléré la production d'œuvres plus radicales, comme celle de Gil Scott Heron, par exemple ?
Oui, c'est sûr. Les assassinats de Martin Luther King et de Malcolm X ont suscité des vocations. Il a été très choquant pour la communauté nord-américaine de réaliser que ces deux principaux meneurs, qu'ils soient pacifistes ou pas, avaient été assassinés, qu'il n'y avait plus de chef de file, que les chefs de file étaient de toute manière soumis au silence quoi qu'il arrive, que l'incarcération ne cessait d'augmenter. Donc face à ça, quoi d'autre que de prendre le micro et de chanter ?
Grâce à vous, Sophie Rosemont, j'ai découvert les Watts Prophets. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui ils sont ?
Alors, les Watts Prophets, c'est un groupe qui est né suite effectivement à un événement précis. C'est les émeutes du quartier de Watts à Los Angeles, à l'été 65. Quelques mois après, plusieurs auteurs se rencontrent, qui sont aussi mélomanes. Ils se rencontrent dans un groupe, dans un atelier d'écriture créative, creative writing, comme on dit aux États-Unis, et décident de se réunir en studio et de mettre en musique leurs poèmes. Ils n'en font pas énormément, mais leur spoken word fait partie vraiment des pierres fondatrices du hip-hop. Même ceux qui ne semblaient pas être politisés étaient très influencés par les Watts Prophets, qui étaient avant tout des érudits, des lettrés, des auteurs, mais fans de funk, de jazz. Et oui, il y a des morceaux incroyables de Watts Prophets. Moi, j'aime beaucoup Pain, qui est absolument abrasif, minimal, bouleversant, déchirant.
En tout cas, leur album Black in a White World est très explicite. En voici d'ailleurs un extrait. Et c'est la poétesse Didi McNeil qui chante.
Thine own self be My child is born, but what's he gonna do? Black in a white world.
Black in a White World par les Watts Prophets, représenté ici par la voix de Dinny McNeil en 1971. Un an plus tard, le label Stax Records organise le festival Watts Stax. De quoi s'agissait-il, Sophie Rosemont?
Ah bah, il s'agissait d'importer la magie de Memphis, de Stax, de ce label donc qui était le rival, on va dire, de la Motown, à Los Angeles. Ce concert était un festival de grandes personnalités. Il y a Staple Singers, il y a Isaac Hayes avec son legging rose, ses chaînes en or qui débarquent avec Black Moses affiché en énorme sur les écrans du stade. Les billets sont vendus $1. Enfin, c'était un très très grand moment de la musique live noire américaine.
Est-ce que Isaac Hayes, qui trône fièrement sur la couverture de votre livre, est le dénominateur commun à toutes les luttes et contradictions de l'Amérique noire de cette époque?
Non, Isaac Hayes était moins politisé, par exemple, qu'un Curtis Mayfield ou un G. Scott Heron. Mais Isaac Hayes avait son parcours pour lui, c'est-à-dire avoir évolué dans l'ombre pendant très longtemps, dans les couloirs de la Stax, à écrire des tubes, notamment Sam et Dave, de se battre pour sortir un premier album solo qui est une consécration énorme, la consécration d'une soul pop symphonique nourrie de milliards de genres différents et qui rencontre un succès assez fou, assez inattendu, qui lui permet d'être riche et de se permettre un peu tout et n'importe quoi en studio. Hein. Il avait quand même des grandes ambitions, Isaac Hayes, ce qui l'a ruiné et ce qui a ruiné son label. Mais c'est une figure christique, c'est l'exemple d'une réussite. C'est un Sam Cooke qui n'aurait pas été assassiné, Isaac Hayes. Sam Cooke, il avait cette volonté-là de monter son propre business, de ne pas dépendre des blancs, que l'argent qu'il gagne lui revienne entièrement, de contrôler l'édition de ses chansons, les droits, de savoir où chanter. Et il était très bien parti, et c'est peut-être ça qui l'a tué.
Ce qu'on retient aussi d'Isaac Hayes, c'est le film Shaft de Gordon Parks, dont il signe la musique originale. En quoi ce film est symbolique du mouvement Black Power?
Parce qu'il fait partie des grands films de la Black Exploitation, avec Superfly notamment, ou Foxy Brown.
Alors déjà, il faut expliquer ce qu'est la Black Exploitation.
Alors, la Black Exploitation, c'est un cinéma réalisé par les Noirs, joué par les Noirs, et à destination, a priori, d'un public noir. Donc ce qui change complètement avec les codes d'une Hollywood très blanche, très masculine d'ailleurs. Bon, la Black Exploitation reste quand même majoritairement masculine. Donc on est dans des histoires de voyous, de deals, de fuites, de sexe. La Black Exploitation a été servie par nombre de réalisateurs, Van Peebles, Gordon Parks, qui est aussi un grand photographe, son fils, qui a réalisé Superfly. Et si ce n'est pas du grand cinéma, le scénario parfois est un peu taillé à la serpe, dirons-nous, il y a une énergie, une euphorie dans ces films, quelque chose aussi d'un peu noir, un peu d'obscur, d'un peu insolent, qui ont fait de la plupart des métrages de ce corpus des références pour nombre de réalisateurs d'aujourd'hui, Quentin Tarantino en tête.
Si nous écoutions Fred is Dead, extrait de la bande originale du film Superfly, composé par Curtis Mayfield, ça vous irait?
Très bien.
Let's go.
Quelques notes de Fred is Dead par Curtis Mayfield en 1972 et nous n'en sommes qu'à la page 96 de votre livre, Sophie Rosemont. Nous aurions voulu évoquer les années Obama, les années Trump et les créations d'artistes diverses et variées durant ces 15 dernières années, les Kendrick Lamar, D'Angelo, Common, Kamasi Washington, mais aussi Ava DuVernay, Raoul Peck et toujours Spike Lee, sans oublier Toni Morrison. Mais il va falloir nous quitter, je renvoie donc nos auditeurs à votre ouvrage Black Power. Une toute dernière question, est-ce que vous pensez que la revendication du Black Power restera à jamais l'une des constantes de la société américaine ?
Je ne l'espère pas, mais hélas, c'est fort possible. Quand on voit la situation des Noirs américains en 2020, qui ont été extrêmement touchés par le virus, qui subissent encore des violences policières meurtrières, pas seulement George Floyd et Breonna Taylor, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, le plafond de verre qui ne cesse de peser au-dessus de leur tête. Oui, le Black Power a, hélas, de beaux jours devant lui. Les revendications sont loin d'être terminées. Il y a énormément de chemin à faire au sein de la société américaine.
Merci de votre analyse et de votre engagement personnel pour une meilleure lecture de la lutte du peuple noir.
Merci beaucoup, Joe, de m'avoir reçu aujourd'hui.
C'est un plaisir. L'émission du jour était réalisée par une activiste de la première heure, Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.
Can't stay the same. Gonna change around,
brothers and sisters,
not too far down the wrong road to turn around,
brothers and sisters,
gotta find a way not to fade away, brothers and sisters.
Appel sur l'actualité.